Bonjour. Aujourd'hui, nous finissons notre série sur le sermon sur la montagne. Et je suppose fortement que plusieurs d'entre vous n'ont même pas suivi le début, puisqu'il y a des personnes qui sont là de manière exceptionnelle. Donc depuis plusieurs mois avec Charlie et Laetitia, nous donnons des messages sur la plupart des sections du sermon sur la montagne de Jésus qui se trouve dans Matthieu 5, du chapitre 5 au chapitre 7. Et là c'est la dernière partie, mais c'est pas grave, je vais vous faire un mini résumé. Et puis de toute façon, même si vous n'avez pas suivi le début de ce sermon, eh bien cette dernière partie vous fera quand même réfléchir, vous remettra quand même en question. Alors, rassurez-vous, normalement vous serez remis en question à la fin de ce culte. Déjà que Alain a commencé avec les passages qu'il nous a lus, qui introduisent bien d'ailleurs ce passage, ce dernier tronçon du grand premier discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Alors je vous invite à lire avec moi ce dernier passage du sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 24. Matthieu 7, 24, jusqu'au verset 29. Quiconque entend de moi ces paroles, donc les paroles qu'il vient de dire depuis deux chapitres et demi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Je vous invite à prier. Merci, notre Père, de nous avoir envoyé ton Fils Jésus pour mourir sur la croix, mais aussi pour les 3 ans qu'il a passé sur cette terre à guérir, à parler. Merci pour son enseignement qui revisite l'enseignement de l'Ancienne Alliance. Merci pour sa personnalité qui nous montre ce qui est bon pour nous, ce que tu veux pour nous. Seigneur, pendant ce temps où nous voulons méditer l'enseignement de ton Fils Jésus, nous te demandons de nous aider à être attentifs et de nous donner la force de bien réfléchir et surtout de bien appliquer ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, que par ton esprit, nous soyons une fois de plus sanctifiés, modelés par toi. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Alors c'est un passage simple ce matin, un passage qui est assez connu, le coup du fou sur le sable et du sage sur le roc, un passage qui a été repris par pas mal de chanteurs, et peut-être que vous allez avoir des mélodies dans la tête à la fin de ce message, même peut-être maintenant. Mais un passage qui est quand même assez riche, et un passage qui normalement peut nous faire très très mal, très très mal. Alors c'est assez simple hein, comme passage, vous avez la parabole des deux maisons, construites sur deux sols différents, qui est une parabole qui concerne deux manières de recevoir l'enseignement de Jésus. Il y a la bonne manière de recevoir l'enseignement de Jésus et la mauvaise manière. Jésus est toujours assez radical comme ça, c'est assez manichéen, il n'y a pas de juste milieu, il y a la bonne et la mauvaise. Et puis, il y a les deux derniers versets qui concernent l'enseignement de Jésus, la manière dont Jésus enseigne ses disciples. Et là, on a une comparaison entre deux manières d'enseigner, la manière d'enseigner de Jésus et la manière d'enseigner des scribes, des pharisiens, c'est-à-dire des spécialistes de la loi, ceux qui ont comme métier, même si en fait finalement ils ont un métier à côté, mais qui ont comme métier d'expliquer la loi, les docteurs de la loi. Ils sont censés faire une sorte de catéchisme pour les enfants et pour les adultes, pour expliquer la loi de Moïse. Et apparemment, Jésus est vachement plus fort qu'eux. Donc c'est super simple. Avant de commencer à un peu plus expliciter, alors je vais faire un petit résumé du sermon sur la montagne. Pourquoi est-ce que Jésus met autant la pression pour bien appliquer son enseignement, étant donné que le sermon sur la montagne, c'est une sorte de reprise de ce qui est dit dans la loi de Moïse, ce qui est dit dans la loi de l'Ancienne Alliance. Jésus met la pression parce qu'il revisite. Il revisite ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance. Alors qu'on pourrait se contenter d'une obéissance superficielle de ce qui est dit dans la loi de Moïse, Jésus place la barre super haut. Il veut pointer le but ultime de la loi de Moïse, c'est-à-dire la lutte contre le mal qui est en nous. Donc vraiment, ce qui est au plus profond de nous, Jésus veut lutter contre. Et il a des paroles qui sont très difficiles à entendre, genre « heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés, parce qu'ils vont recevoir une compensation de la part de Dieu ». Il revisite certains commandements en disant « voilà, vous avez l'impression d'être super juste parce que vous n'avez pas tué votre frère, mais moi je vous dis, si vous pensez que votre frère est un imbécile, c'est comme si vous le tuiez ». Ce qui veut dire que finalement, tout le monde pêche de manière mortelle, tout le monde mérite la mort aux yeux de Dieu, parce que Dieu vise l'anéantissement du péché qui est en nous. Or, ce péché est toujours là, donc il y a un vrai problème. Jésus va lutter aussi contre l'hypocrisie religieuse, en disant, vous adorez Dieu pour être vu des autres, ou pour avoir bonne conscience. Mais en fait, Dieu veut être adoré pour lui-même. Donc obéissez-lui, soyez pleinement tournés vers lui, et ne faites pas des choses comme si c'était pour Dieu, alors qu'en fait c'est juste pour vous faire voir. Ne faites pas comme les pharisiens. D'ailleurs, Jésus tape déjà sur les pharisiens à cette époque-là. Ayez une foi véritable, une foi tournée réellement vers Dieu, et ne mettez votre confiance en rien d'autre. Et surtout pas dans les richesses matérielles ou dans votre propre force. Mettez votre confiance en Dieu. Voilà l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne. C'est un petit résumé, mais je pense que c'est un résumé qui résume pas mal. Et ça, c'est assez dur à entendre quand on est dans une époque où on a envie, bien sûr, d'obéir à la loi de Moïse, mais bon, de faire des petits aménagements quand même, parce qu'il faut bien vivre. Ou quand on a tendance à se servir de cette loi pour avoir juste bonne conscience, ou pour être vu des autres et se faire un peu mousser aux yeux des autres. Jésus tranche, Jésus dérange dans ce sermon sur la montagne, et c'est pour cela qu'il met la pression avec cette parabole des deux maisons, l'une fondée sur le roc qui est solide, et l'autre fondée sur le sable qui finira par être détruite. Dans le sermon sur la montagne, Jésus se définit comme un nouveau Moïse. Donc Jésus monte sur une colline, une montagne, un peu comme Moïse est monté sur le Sinaï pour y recevoir les paroles de Dieu et pour enseigner ensuite le peuple d'Israël. Jésus est le nouveau Moïse, il se met sur la montagne et il enseigne ses disciples. Et justement, puisqu'il va parler de la loi de Moïse, c'est assez logique que Jésus soit le nouveau Moïse. Mais là où ça peut être très intéressant de voir cette parabole des deux maisons qui met la pression sur l'obéissance, c'est que à la fin de la loi de Moïse, à la fin du Lévitique, il y a un chapitre, le chapitre 26, qui imite les traités du deuxième millénaire avant notre ère. Au deuxième millénaire avant notre ère, quand il y avait un traité entre un vassal et un suzerain, il y avait les obligations du vassal et les obligations du suzerain. Souvent, les obligations du vassal, c'était de donner de l'argent au suzerain, Et l'obligation du suzerain, c'était de protéger son vassal. C'est à peu près ça. Et à la fin de ces obligations, il y avait des bénédictions et des malédictions en cas de désobéissance du vassal. Le suzerain, il n'avait pas tellement de malédictions finalement. Mais il y avait des malédictions pour le vassal. Et à la fin du Lévitique, donc le Lévitique qui est ce grand catalogue de lois assez précises, au chapitre 26, vous avez ces bénédictions et ces malédictions pour le peuple d'Israël s'ils n'obéissent pas à la loi de Moïse. Alors je vous invite à lire ces ordonnances, ces malédictions et ces bénédictions. Donc Lévitique 26 à partir du verset 3, Dieu dit au peuple d'Israël, si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays quand vous vous coucherez. Rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont sous votre glaive. Je ferai ma demeure au milieu de vous et jamais je ne vous rejetterai. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Ça, c'est la bénédiction. La malédiction, mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances, et si vous rejetez mes lois, pour ne plus appliquer tous mes commandements et pour violer mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me tournerai contre vous, vous serez abattus par vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus grande. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez, je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer, et votre terre comme du bronze, vous épuiserez vos forces en vain, vos terres ne produiront plus rien, et les vergers ne porteront plus de fruits. Bénédiction et malédiction en cas de désobéissance. La petite parabole des deux maisons est une réplique plus courte, plus simple et plus imagée de ces sanctions qui concluent un traité d'alliance, le traité d'alliance de Moïse et les mêmes traités d'alliance du deuxième millénaire avant notre ère. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, « Vous qui m'avez écouté sur cette montagne, si vous ne m'obéissez pas, vous serez maudits. » Ce qui n'est pas très très drôle finalement pour conclure un discours. C'est très très important d'avoir la foi, de venir voir Jésus, de dire qu'il est le Messie, mais c'est beaucoup plus important pour Jésus de lui obéir, de faire ce qu'il dit. Et c'est la grande thématique biblique de la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. Jésus est en train de dire qu'on peut toujours croire en lui, mais si on ne fait pas ce qu'il dit, ça ne sert à rien. À rien. Nous, on pourrait se dire, c'est quand même pas mal de s'approcher de Jésus, d'écouter son enseignement, qui est quand même assez intéressant. Voilà, c'est bien, quoi. C'est une bonne approche. Et Jésus dit à ses disciples, si c'est un début, pourquoi pas? Mais si vous vous contentez de trouver ce que je dis intéressant et de me prendre pour un sage plutôt bien, eh bien, votre ruine sera complète. L'apôtre Jacques, le frère de Jésus, nous dit la même chose que ce que dit Jésus. Et ça tombe bien parce qu'on pense que l'épître de Jacques est calqué sur le sermon sur la montagne. Qu'est-ce que dit Jacques au chapitre 1 de sa lettre ? Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter et qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous de ce qui souille, de ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait, mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Jacques utilise l'enseignement du sermon sur la montagne pour en remettre une couche avec des jeunes chrétiens à l'époque. Et il explicite bien ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne. C'est si vous êtes religieux, si vous faites les croyants comme ça aux yeux de tout le monde, mais que vous n'obéissez pas à la parole du Seigneur, d'une part en tenant votre langue, en évitant de dire n'importe quoi, et deuxièmement en aidant votre prochain, si vous ne faites pas ça, votre religion ne vaut strictement rien. Autant être des païens, autant être sans Dieu, parce que vous finirez de la même manière que les païens. Là encore, un enseignement pas très très drôle, un enseignement qui met la pression pour que nous puissions obéir à Jésus. Dans l'enseignement du sermon sur la montagne, il y a le fait de ne pas avoir les œuvres mais d'avoir que la foi. Ça a une conséquence, c'est la ruine complète. La ruine complète. La parabole est assez simple. Hein. Construire sur le roc, on construit une maison. D'ailleurs, c'est la même chose sur le sable. En fait, à chaque fois, il y a une maison qui est construite. Donc, on a l'impression d'avoir fait quelque chose. On peut se retourner en se disant, voilà, avec mes jolies petites mains, j'ai fait quelque chose de bien. Hein. Donc, ce que j'ai fait n'a pas été vain, n'a pas été inutile. Mais il y a une fin à cela. Il y a une fin à cela. Cette fin révèle la vraie nature de ce qu'on a construit. Dans le premier cas, si on a fondé sur le roc, c'est-à-dire sur le fait d'avoir obéi aux paroles de Jésus, ça tient. Mais si on fonde sur le sable, c'est-à-dire une sorte de foi comme ça, évanescente, n'a pas pour résultat des actes, à la fin, il n'y a plus rien du tout. La ruine est complète. Ce qui veut tout simplement dire, une fois de plus, que finalement, Jésus sous-entend que les personnes qui ont construit sur le sable ne sont pas chrétiennes. Même si elles l'ont suivi, même si elles l'ont écouté, parce qu'elles ne lui ont pas obéi. L'apôtre Paul va reprendre cette image de la construction et une sorte de révélation de la qualité de cette construction. Dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, il va parler à des responsables d'église qui ont des problèmes, qui ont des problèmes parce que au lieu de s'attacher à l'enseignement central de Jésus, ils vont commencer à se dire oui, mais moi je suis supérieur parce que j'ai été enseigné par l'apôtre Pierre. Les autres vont dire moi je suis supérieur parce que j'ai été enseigné par Apollos. Moi je suis supérieur parce que j'ai été enseigné par Jésus lui-même. Et Paul va leur dire vous n'avez pas compris l'enseignement central de Jésus, mais il va aussi leur mettre un peu la pression pour qu'ils reviennent justement à cet enseignement et qu'ils arrêtent un petit peu de se faire mousser sur la personne qui les a enseignés. Et voici ce qu'il dit à ses responsables d'église. Donc c'est dans 1 Corinthiens 3. « Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Donc là, pour Paul, il s'adresse à des chrétiens, donc il dit, vous avez mis le bon fondement, hein, c'est Jésus, vous êtes fondé sur le roc, il n'y a pas de problème. Donc eux, déjà, c'est déjà ça. Mais on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou bien du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre que chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour du jugement sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Paul, là encore, approfondit cette parabole de Jésus. Il s'adresse à des chrétiens, donc il ne reprend pas l'histoire du fondement. Il dit « Votre fondement, c'est le Christ ». Mais par contre, on peut construire avec deux sortes de matériaux. Des matériaux précieux, qui ne sont pas périssables. Donc quand le feu passe sur ces matériaux, ça reste. Ou des matériaux périssables, qui quand ils passent au travers du feu, sont complètement consumés. Et au final, le jour du jugement, quand ces Corinthiens vont comparaître devant Dieu, eux qui ont eu l'impression tous de construire des choses sur Dieu, de faire des choses pour Dieu, au final, il y aura des gens qui auront fait des choses selon l'enseignement de Jésus, qui vont avoir vraiment pleinement obéi à Jésus, au message central de Jésus, et eux, la construction en or, en diamant, en argent, va demeurer et Dieu va leur donner une récompense. Mais par contre, ceux qui vont avoir fondé leur vie sur des choses beaucoup plus secondaires, voire complètement vaines, vont se retrouver, si vous me passez l'expression, à poil devant Dieu. Comme au travers du feu, comme des gens qui sont passés au travers du feu, qui se sont échappés en pleine nuit d'un incendie. Ils n'ont plus rien. Ils vont avoir peut-être vécu 40, 50 années de vie chrétienne, et au final, devant Dieu, il ne subsistera rien. Rien. Ils seront sauvés, Paul le dit. Ils seront sauvés. Mais leur passage sur terre, leurs œuvres pour Dieu, n'aura compté pour rien. Rien du tout. Jésus s'adresse à des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Paul s'adresse à des chrétiens, mais c'est toujours le même enseignement. Si nous écoutons l'enseignement de Jésus, il faut lui obéir, il faut vraiment faire ce qu'il nous dit, parce que si nous espérons avoir la moyenne, la mauvaise nouvelle, c'est que la moyenne, ça ne suffit absolument pas pour passer. Ça, c'est pour l'enseignement révolutionnaire, dérangeant de la part de Jésus. Peut-être que maintenant, il faut venir à la manière dont Jésus l'a prononcé, avec autorité, d'après les auditeurs. Il avait beaucoup plus d'autorité que les scribes et les pharisiens. Et justement, dans le même évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, bah, déjà dans le sermon sur la montagne, « Si votre justice ne dépasse pas des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Pour rappel, les scribes et les pharisiens étaient des juifs très respectés. Des juifs qui étaient les plus respectés de leur temps, et la plupart des juifs de l'époque pensaient que eux, vraiment, s'il y avait des personnes qui devaient aller au ciel, c'était les pharisiens. Justement, ne sont pas justes, n'obéissent pas à Dieu. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, il fait plus que sous-entendre, puisqu'il commence le chapitre 23 en disant « Les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Écoutez-les. Écoutez-les parce que ce qu'ils disent est vrai. Par contre, ne les imitez pas. Ne les imitez pas parce qu'ils sont hypocrites. Hypocrites. Ce qu'ils disent est vrai, mais ce qu'ils font est faux. » Et là, Jésus dit à ses disciples, ce que je vous dis de faire, faites-le, pas comme les pharisiens. Ne le faites pas comme les pharisiens de manière superficielle. Et dans le chapitre 23, qu'est-ce que Jésus critique à propos des pharisiens? Il critique le fait que déjà, ils font semblant d'obéir à la loi, mais en fait, ils n'y obéissent pas pour de vrai. Et qu'en plus, quand ils y obéissent, c'est pour être vus des hommes et se faire mousser. Ne faites pas comme cela. Il y a plusieurs manières d'enseigner. Et la manière des scribes ou la manière de Jésus est très différente parce que Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, enseigne pour changer les cœurs. Il enseigne, quitte à être mal vu, mais il enseigne pour que les choses changent, pour que le péché soit éradiqué. Les pharisiens, eux, enseignent pour qu'il y ait une sorte de statu quo, pour qu'on les admire et pour que l'ordre social reste pareil. Et c'est justement la marque des faux prophètes, des faux enseignants. Et d'ailleurs, dans le passage avant celui que nous méditons, le passage que Laetitia a médité il y a quelques dimanches, Jésus parle des faux prophètes. De gens qui ont l'air d'être prophètes, mais qui finalement ne sont pas prophètes. Ou de gens qui exorcisent au nom de Jésus, qui enseignent au nom de Jésus, mais à la fin, Jésus leur dit « Je ne vous ai pas connu. » Il y a de fortes chances que Jésus parle des pharisiens dans ce passage. Des personnes qui sont très forts pour parler de la loi de Moïse, qui ont une certaine autorité, mais qui ne l'appliquent pas et qui du coup en fait enseignent, et ça sonne faux. Ça sonne faux puisque les gens qui écoutent Jésus se disent « Mais allons, ce gars-là, on n'a jamais entendu une interprétation de la loi de Moïse comme celle-ci. » Les scribes et les pharisiens là, quand ils enseignent, voilà, c'est compliqué, c'est voilà, ils ont l'air comme ça d'être tout en haut et nous tout en bas. Là, Jésus, il nous percute quoi, il nous percute. Et c'est justement la marque des faux docteurs, des faux prophètes dans la Bible. Ils disent ce que les gens ont envie d'entendre. Ils caressent dans le sens du poil. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit à la fin des temps, les gens voudront entendre de jolies histoires, de jolies fables. Et ils voudront justement qu'on les caresse, comment il dit, dans le sens des oreilles, je crois, un truc comme ça. Enfin, en gros, que voilà, dans le sens du poil, quoi, dans la version moderne. Ils prêtent leur oreille à des gens qui leur disent des choses qu'ils ont envie d'entendre. Mais il dit à Timothée, toi, proclame la parole, que le moment soit bon ou mauvais, tout le temps, proclame la parole. Et là, il parle de Timothée à l'intérieur de l'Église. Hein. Proclame la parole. Dis les choses vraies, quitte à te faire détester, quitte à ce que ça provoque des choses un petit peu déstabilisantes. Proclame la parole parce que c'est la vérité, cette parole. Et le but de cette parole, c'est de produire du changement. Jésus veut produire du changement. Et du coup, une première application pratique s'ouvre à nous sur cette thématique. c'est à quoi ça sert qu'on vienne ici ? À quoi ça sert, je sais pas, à quoi ça sert que je parle par exemple ? À quoi ça sert que vous écoutiez ? À quoi ça sert de venir à des études bibliques ? À quoi ça sert de participer à des activités d'église si nous n'obéissons pas plus à Jésus de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, si nous ne continuons pas ce processus de changement? Bah, la réponse est que ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. Parce que voilà, si moi je parle et que vous écoutez et que en fait moi je parle pas de la bonne manière pour que vous soyez encouragés à changer et à obéir à Jésus, et si vous n'écoutez pas de manière à vous dire bah j'ai envie de prendre cette parole de Dieu et de la malaxer, de la retourner dans ma tête et de faire en sorte qu'elle ait un résultat par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu, je suis désolé, mais nous perdons complètement notre temps. Et franchement, j'aurais mieux fait de faire une grasse matinée. Et vous aussi. Parce que notre religion est vaine, est fausse, inutile, si nous nous réunissons pour juste une sorte d'exercice intellectuel, une sorte de méditation plus ou moins mystique. Ça ne sert strictement à rien. Nous nous illusionnons nous-mêmes. Mais si, bien sûr, nous nous réunissons pour changer, pour obéir aux paroles de Jésus, nous construisons sur le roc. Et là, c'est utile. Et j'ai la naïveté de croire que finalement, y a un peu des deux en nous, hein. Voilà, Jésus est radical hein, en proposant juste deux options, mais en fait souvent, eh bien, nous avons un peu des deux en nous. Nous voulons changer jusqu'à un certain point, puis il y a d'autres choses. Il y a certains points dans notre vie qui mettent un peu plus de temps à changer. Parfois, nous sommes bien disposés et nous voulons vraiment écouter cette parole, être transformés par le Saint-Esprit. Parfois, non. Mais je trouve que cet enseignement de Jésus nous invite vraiment à réfléchir sur nos motivations religieuses. Je déteste ce mot religieux, mais je pense que c'est bien de dire nos motivations religieuses. Pourquoi participons-nous aux activités de l'Église ? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les résistances à notre obéissance ? Qu'est-ce qui fait que nous n'allons pas tous les jours vers Jésus en disant « Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois changer encore ?» Parce que finalement, Jésus a l'air de dire « Bonjour, je suis général, vous êtes des troufions, vous êtes des deuxièmes classes et vous m'obéissez quoi. Enfin, je m'en fiche que vous ayez autre chose à faire, je m'en fiche que ce soit trop dur, je vous donne un ordre, vous m'obéissez. » Des questions ? Non, pas de questions, on ne pose pas de questions à général quand on est un deuxième classe hein, finalement. On nous donne un ordre, il faut obéir à cet ordre. Or, souvent, nous disons « Ouais, mais c'est trop dur, mais j'ai autre chose à faire. Oui, mais on pourrait peut-être comprendre ce passage d'une autre manière, d'une manière qui m'arrange beaucoup et qui ne me remette pas en question. Alors, je cherche pour mieux comprendre ce passage. » Nous essayons de trouver des chemins comme ça pour pas trop obéir à Jésus, finalement. Parce que, nous sommes un petit peu paresseux. Je suis très paresseux. Parce que peut-être nous avons une culture, certains points culturels qui vont vraiment à l'encontre de l'enseignement de Jésus, mais on n'arrive pas à lutter contre notre culture, notre éducation, finalement. Peut-être que nous nous sentons complètement désemparés pour y obéir, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons demander de l'aide au Saint-Esprit pour nous aider à accomplir ces paroles de Jésus. Mais c'est une bonne chose de réfléchir à nos résistances, pour pouvoir les combattre, pour pouvoir dire au Seigneur il y a tel point et tel point, j'y arrive pas. Je pêche jour après jour. J'ai beau faire des efforts, j'ai beau mettre en place des règles, je pêche jour après jour, je retombe dedans. Seigneur, aide-moi, parce que je suis incapable de lutter contre mon péché. Dernier point. Qu'est-ce que les torrents, la pluie, le vent dans cette parabole de Jésus ? Je pense que oui, ça représente le jugement. C'est que voilà, on construit quelque chose, et à la fin, lors du jugement, on sait ce qui reste. Mais je pense qu'il y a des choses, il y a des événements dans notre vie terrestre qui sont des préfigurations du jugement, et on appelle ça des épreuves, ou des tentations. C'est le même mot en grec, hein, épreuve et tentation. Dans notre vie, parfois les choses vont beaucoup moins bien. Parfois nous sommes confrontés à des choses qui nous dépassent. Alors que ce soit des tentations, des choses qui nous tentent, ou des choses qui nous écrasent comme des épreuves. Eh bien je pense que ces moments de tentation ou d'épreuve sont des moments qui sont là pour que nous réfléchissions sur ce que nous avons acquis. Ce sont des tests finalement à notre foi. Ce sont des tests qui nous montrent, enfin où en fait finalement Jésus nous dit, bah alors, tu croyais avoir compris telle chose et telle chose. Maintenant que je t'ai coupé un peu ton petit confort, qu'est-ce qui reste finalement? Comment est-ce que tu réagis, voilà? Parce que bon, c'est, je veux dire, là tout le sermon sur la montagne, quand on est les fesses sur un banc un dimanche matin et que on n'est pas trop stressé, c'est assez facile de se dire, ah oui, c'est vrai, il faut pas dire imbécile à propos de son frère dans sa tête. Ah oui, c'est vrai, il faut obéir à Jésus. Ah oui, il faut pas mettre ses confiances dans ses biens matériels. Il faut vraiment mettre sa foi en Dieu. Ça coûte pas très cher. Par contre, si Dieu nous coupe les vivres. Si Dieu met sur notre chemin un frère ou quelqu'un d'autre qui a une attitude absolument déplacée, où en fait on a envie de lui en mettre une, là par contre, c'est un vrai test pour savoir si on a tout compris. Pour savoir si, eh bien voilà, Jésus nous dit, bah alors t'obéis ou t'obéis pas finalement? Parce que là c'est exactement le moment où tu dois m'obéir. C'est pas le dimanche matin sur un banc où tu dois m'obéir. C'est quand tu es réellement confronté à la véritable situation. Réfléchissez. Les épreuves et les tentations, finalement, sont souvent de très bonnes choses pour notre foi. Alors, quand on est dedans, on pense que c'est une très mauvaise chose, ce qui est assez logique parce que ça nous fait souffrir. Mais la plupart du temps, c'est une très bonne chose pour notre foi. C'est ce qu'a lu tout à l'heure Alain dans les Proverbes. Dieu est un père qui corrige ses fils. C'est un père qui éduque ses enfants. Et c'est du coup une assez bonne chose de se faire reprendre par notre Père, parce que ça nous fait changer. Et je vous rappelle que le but de notre vie, c'est de servir Dieu. Or, la plupart du temps, ou en tout cas souvent, nous pensons que le but de la vie de Dieu, c'est de nous servir nous. Et c'est vraiment problématique. Nous pensons que croire en Dieu, bah, c'est bon pour notre bonne conscience, c'est bon pour nos inquiétudes, c'est parfois même bon pour notre ego, quand ça nous permet d'être vu et de bien parler devant tout le monde, comme les pharisiens. Mais finalement, le but du culte, par exemple, le culte, c'est de servir Dieu, c'est d'adorer Dieu. C'est pas de recevoir, c'est de donner. Alors, êtes-vous fou ? Êtes-vous insensé? Êtes-vous stupide au point de construire votre maison sur le sable et d'écouter les paroles de Jésus et de ne rien en faire? Ou êtes-vous des gens avisés, intelligents, sages, qui écoutent les paroles de Jésus et qui les appliquent? C'est à nous tous, chacun, de répondre à cette question. Et je vous invite à prier. Pour conclure, sinon nous allons sombrer dans la dépression. Père, nous voulons te remercier pour cet enseignement percutant de ton Fils Jésus. Nous voulons te remercier parce que il est bien placé pour donner cet enseignement parce que lui a parfaitement obéi à tous tes ordres pendant toute sa vie sur terre. Il t'est resté fidèle. Il a résisté à la tentation. Il a résisté aux épreuves. Et même quand il était terrassé à l'idée de subir son calvaire, eh bien, il a eu cette force de te dire que c'était ta volonté qui devait primer et pas la sienne. Merci Seigneur parce que ton Fils Jésus est un exemple de fidélité pour nous. Nous voulons te demander de nous aider à l'imiter. Nous voulons te confesser notre faiblesse, notre orgueil, nos résistances. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, tu nous connais mieux que quiconque. Tu vois bien au-delà du joli vernis que nous voulons faire paraître aux autres. Et tu vois à quel point nous avons un mauvais fond, à quel point nous échouons dans nos tentatives de t'être fidèles, de t'obéir, et surtout à quel point nous n'essayons même pas de t'être fidèles et de t'obéir. Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin. Nous voulons te demander pardon pour ce péché que nous laissons prospérer en nous, que nous laissons se répandre. Vraiment, Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être tes enfants. Mais merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous pardonnes, tu nous relèves et tu nous donnes les moyens d'avancer. Et nous voulons vraiment, vraiment te prier pour que tu continues de nous remplir de ton Saint-Esprit. Que tu continues de nous changer. Nous voulons vraiment que tu sois fier de nous, notre Père. Nous voulons vraiment être des enfants dignes de ton appel, dignes de notre nouvelle naissance. Seigneur, nous ne voulons pas que notre vie soit fondée sur le sable, que notre vie soit totalement vaine, qu'il ne reste rien à la fin. Nous voulons vraiment t'adorer pleinement et construire un édifice qui te rende gloire. Nous voulons que nos actes, que notre vie, que notre famille te rendent gloire. Nous ne faisons que le vouloir parce que nous savons que nous ne pouvons pas. Alors nous te prions. Seigneur, agis en nous. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen.